Nous en sommes au quatrième jour de la retraite. Et j'aimerais aujourd'hui lire et commenter le 40e Koan du Mumon Khan. Issan renverse la cruche. Comme tant d'autres Koans du Mumon Khan, ce Koan nous montre à quel point nous sommes emprisonnés par le langage et les mots que nous utilisons dans notre vie quotidienne. Il nous laisse aussi entrevoir l'engagement sincère qu'exige la pratique authentique du zen. Mais avant d'en dire plus, parlons un peu de Maître Issan. Issan a vécu en Chine de 771 à 853. Il fut le disciple et successeur du Maître Yakujo et devint l'un des grands maîtres du Shan. Il devint moine à l'âge de 15 ans et commença sa formation dans un monastère de l'école du bouddhisme Vinaya. Cette école du bouddhisme chinois et japonais se distinguait de toutes les autres. On y mettait d'abord et avant tout l'accent sur la stricte observance des règles de la vie monastique, et ces dernières étaient énoncées dans ce que l'on appelait le Vinaya Pitaka, un recueil consacré aux règles de la vie des moines et des nonnes dans leurs communautés respectives. La vie des moines et des nonnes s'y trouvait réglementée jusque dans les moindres détails, selon des critères moraux, éthiques et spirituels. Toutes les procédures de la vie en commun, par exemple, les tâches, l'habillement, la nourriture, les attitudes et les comportements adoptés, la confession des manquements personnels, l'abandon des biens matériels, l'obéissance, les règles de l'ordination et aussi de l'exclusion, entre autres, toutes ces règles y étaient décrites et expliquées. Ces règles du Vinaya, au nombre de 250 pour les moines et de 348 pour les nonnes, étaient extrêmes. Et elles furent peu à peu abandonnées par le Zen et par d'autres écoles bouddhistes, qui insistaient moins sur l'importance des règles elles-mêmes que sur l'esprit qui les anime. Cette question des règles à suivre par les membres d'une communauté vouée à la pratique spirituelle du zen, telle que la nôtre, par exemple, reste évidemment toujours d'actualité. C'est une question délicate. Toutes les communautés humaines mettre de l'avant certaines règles. À l'époque, par exemple, où M. Lou dirigeait notre communauté, les règles du centre, qui avaient été importées du centre Zen de Rochester, étaient plus sévères et contraignantes. Elles le sont moins aujourd'hui. La robe, hier obligatoire, a été abandonnée et les vêtements civils admis. Les rituels dans le Zendo ont été simplifiés. Nous pouvons maintenant prendre la parole dans Zendo suite aux mots d'accompagnement, alors qu'autrefois, cela n'était pas toléré. Et ainsi de suite. Les règles des communautés zen n'ont évidemment rien d'absolu et elles changent lorsque cela s'avère souhaitable, surtout dans les communautés laïques qui sont plus exposées que les communautés monastiques aux contraintes de la vie sociale. Or, le zen en Amérique est d'abord et avant tout un zen laïque, ce qui explique sans doute la grande diversité des règles que l'on y trouve. Après ce passage dans l'école du Vinaya, Issan étudia le bouddhisme Hinayana et Mahayana, et à l'âge de 20 ans, il se tourna enfin vers le zen. Il rejoignit le monastère du maître Yakujo, auprès de qui il étudia pendant plus de 20 ans. Il connut auprès de lui un grand éveil et fut nommé Tenzo, c'est-à-dire cuisinier de la communauté. C'est dans ce contexte que le maître Yakujo convoqua un jour toute la communauté afin de désigner celui qui serait chargé d'établir un nouveau monastère dans la région du mont Dai. Voici ce que raconte le corps. Issan avait la charge de cuisinier au monastère de Yakujo. Yakujo voulait choisir un maître pour le monastère de Dai. Il invita donc le chef des moines et le reste de la communauté à démontrer leur compréhension. Celui qui excellerait irait fonder le monastère. Il prit une cruche, la posa sur le sol et demanda « Si on ne l'appelle pas une cruche, qu'est-ce que c'est ?» Le chef des moines dit « On ne peut pas l'appeler un sabot. » Yakujo interrogea Isan. Isan renversa la cruche avec son pied et s'en alla. Yakujo partit d'un grand rire et dit au chef des moines « Isan nous a vaincus. » Isan fut chargé de fonder le nouveau monastère. Dans le poème qui suit le Koan, le maître Mumon écrit « Il abandonne les paniers de bambou et les cuillères en bois. D'un seul coup, il tranche les complications. Il ne s'arrête pas, malgré la barrière étroite de Yakujo. La pointe de son pied fait jaillir d'innombrables bouddhas. » Isan quitta donc le monastère pour se rendre au mont Dai. La tradition raconte qu'il y construisait un ermitage, c'est-à-dire une petite hutte faite de glaise, de paille et de branches. Il se nourrissait de baies, de fruits et de quelques légumes qu'il faisait pousser. Il méditait chaque jour pendant de longues heures. Mais personne ne venait. Il resta seul sur le mont Dai pendant 8 ans. À quoi bon continuer? Cela n'a aucun sens. Je suis venu sur cette montagne pour fonder un grand monastère. Mais me voici seul depuis toutes ces années, dans cette hutte misérable. À quoi bon tout cela? Je pourrais sûrement être plus utile ailleurs. Isan quitta donc son ermitage. La légende raconte alors que, pendant qu'il descendait de la montagne, un tigre l'approcha et, avec ses griffes, attrapa délicatement sa manche comme pour le retenir. Isan pensa, « L'on dirait que ce tigre veut me dire quelque chose. » Il fit demi-tour et retourna à sa hutte. Peu après, 3 moines se présentèrent et l'aidèrent à construire un premier monastère. Avec le temps, ce monastère fut agrandi et en vint à accueillir plus de 1000 disciples. Isan y resta jusqu'à sa mort, à l'âge de 83 ans. Nous pouvons maintenant revenir vers le Koan. Le cœur de ce Koan tient en quelques phrases. Yakujo prit une cruche, la posa sur le sol et demanda « Si on ne l'appelle pas une cruche, qu'est-ce que c'est ?» Le chef des moines dit « On ne peut pas l'appeler un sabot. » Yakujo interrogea Isan. Isan renversa la cruche avec son pied. Yakujo partit d'un grand rire et dit au chef des moines « Isan vous a vaincu. » Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi Yakujo dit-il qu'Isan a vaincu le chef des moines en renversant la cruche avec son pied? Dans son poème, Mumon écrit qu'Isan n'a pas été arrêté par la barrière étroite de Yakujo. Quelle est cette barrière? Et comment le chef des moines a-t-il failli à la dépasser? Ce koan nous fait entrer, avec Yakujo, Isan et le chef des moines, dans l'univers magique des choses nommées. C'est un monde qui nous est très familier. Dans ce monde, une table est toujours une table. Une natte de méditation reste toujours une natte. Un zendo, toujours un zendo. C'est un monde où les mots et les choses se confondent. C'est le monde du langage ordinaire, celui que l'on utilise tous les jours. Dans ce monde, chaque chose est nommée et se différencie de tout le reste. C'est un monde qui échappe à l'impermanence et qui est stable. Un monde où chaque chose a son identité propre et est séparée de toutes les autres choses. C'est un monde où vous êtes quelque chose. Par exemple, un être humain, une âme, un individu, un homme, une femme ou une personne non-genrée. Si l'on vous demande qui êtes-vous, vous pouvez dire quelque chose. Et de la même manière, vous pouvez parler avec conviction du monde dans lequel vous vivez. C'est la magie des mots que nous utilisons dans notre vie. Ils font apparaître un monde dans lequel il y a de l'ordre, un monde où l'on sait qui l'on est, d'où on vient et où l'on va. C'est pourquoi la question que pose Yakujo semble si déstabilisante. Si on ne l'appelle pas une cruche, qu'est-ce que c'est? Voyez le monde autour de vous. Si on ne l'appelle pas le monde, qu'est-ce que c'est? Ou vous-même, avant même que la moindre pensée n'apparaisse dans votre esprit, qui êtes-vous? C'est comme si tout à coup, le monde tremblait et révélait sa fragilité. En posant cette simple question, Yakujo nous invite à aller au-delà des choses nommées. Mais le chef des moines ne le voit pas. C'est pourquoi il répond, on ne peut pas l'appeler un sabot. Sa réponse est juste, mais seulement si on reste à l'intérieur des choses nommées, c'est-à-dire à l'intérieur d'un monde où une cruche reste toujours une cruche, un sabot toujours un sabot. Un monde où les choses sont fixées une fois pour toutes par le langage et où dire qu'une cruche est un sabot n'a aucun sens. Le chef des moines reste à l'intérieur de ce que Maître Mouman appelle la barrière étroite de Yakujo. Il ne la franchit pas. Maître Yakujo se tourne alors vers Issa. Ce dernier renverse simplement la cruche avec la pointe de son pied et s'en va. Maître Mouman écrit, d'un seul coup, il tranche les complications. Il ne s'arrête pas malgré la barrière étroite de Yakujo. Issan tranche toutes les complications qui sont créées par le langage. Il voit immédiatement à travers le piège que lui tend Maître Yakujo. Le Koan nous dit que ce dernier prend une cruche, la pose sur le sol et demande ensuite « Si on ne l'appelle pas une cruche, qu'est-ce que c'est ?» Mais où y a-t-il jamais eu une cruche ? Avant même que la moindre pensée n'apparaisse dans votre esprit, quelle est votre vrai visage. Issan renverse simplement votre vrai visage avec la pointe de son pied et s'en va. Il n'a aucun temps à perdre à jouer avec des mots vides comme le fait le chef des moines. La barrière étroite de Yakujo, le piège des mots qui nous est si familier, ne l'arrête. Mouman écrit alors, malgré son extrême bravoure, Issan ne peut s'échapper du piège de Yakujo. Après un examen attentif, on voit qu'il a choisi ce qui est lourd et refusé ce qui est léger. Pourquoi? Il se débarrasse du tablier, mais il porte la cangue de fer. Comme je l'ai dit, ce koan nous fait entrer dans l'univers magique des choses nommées. Il nous montre à quel point nous sommes envoûtés par les mots, le langage, les étiquettes et les jugements. Mais il nous en fait aussi sortir. Dès qu'Issan renverse la cruche avec la pointe de son pied. En eux-mêmes, les mots et les étiquettes ne sont pas vraiment des problèmes. Et c'est pourquoi certains pratiquants du zen se trompent lourdement en croyant qu'il nous faut abandonner le langage. Les mots que nous utilisons ne sont ni bons ni mauvais. Ils nous aident à vivre. Ils mettent de l'ordre dans un monde qui autrement serait chaotique. Voilà pourquoi nous les utilisons. Il faut tout simplement s'en servir et les laisser aller, ne pas les retenir. S'y attacher en les croyant réels est une erreur. Il nous faut apprendre à voir au travers des mots, cesser de les prendre au sérieux comme nous le faisons, mais sans les briser. Il ne sert à rien de vouloir détruire ou abandonner une si merveilleuse création de l'esprit humain, même si la vérité ne s'y trouve pas. Ce koan nous montre aussi autre chose. Maître Mouman nous dit qu'Issan fait preuve d'une grande bravoure en renversant la cruche avec la pointe de son pied. En répondant comme il le fait à la question de son maître, Issan révèle en effet la profondeur de son éveil et l'authenticité de son engagement dans le zen. Au moment même où il pose son geste, il sait déjà qu'il ne pourra plus échapper au piège de Yakujo et qu'il devra quitter le monastère. Il devra laisser derrière lui ses paniers de bambou et ses cuillères en bois, quitter la cuisine du monastère pour endosser ce que Mouman appelle la cangue de fer, c'est-à-dire la tâche beaucoup plus lourde de fonder et diriger un nouveau monastère. Comme le dit encore Mouman, Issan choisit ce qui est lourd et refuse ce qui est léger. Il ne recule pas devant la demande qui lui est faite. C'est la direction dans laquelle notre pratique nous demande inévitablement, un jour ou l'autre, d'avancer. Rappelez-vous le premier des quatre vœux. Tous les êtres innombrables, je fais vœu de libérer. Nous le chantons chaque jour dans ce zendo. Mais il faut parfois de longues années de pratique pour bien l'entendre. Au début, nous pratiquons pour notre propre salut. Nous voulons, pour ainsi dire, obtenir quelque chose de la pratique et nous y consacrons tous nos efforts. Nous nous plions aux règles de la communauté, nous obéissons aux directives qui nous sont données. Et nous méditons fidèlement. L'on croit alors savoir ce qu'il faut faire pour s'aider soi-même et l'on s'y applique. Mais si l'on persévère, on voit que loin de répondre à nos rêves d'épanouissement personnel, le zen nous en libère peu à peu. Il nous libère de toutes nos illusions et de tous nos rêves. Il nous allège en nous montrant que nous pouvons renverser nos rêves et nos illusions avec la pointe de notre pied. Un jour vient où le barrage cède enfin, et c'est un soulagement. L'on s'ouvre à ce qui est. Notre pratique est maintenant sans prétention, plus authentique. Elle ne cherche rien. Elle ne refuse rien et elle laisse passer les choses. On devient alors capable de compassion et de gratitude envers soi-même et les autres. Comme Issan, l'on devient capable de pratiquer avec et pour les autres. Nous passons d'une pratique centrée sur nous-mêmes à une pratique tournée vers les autres. Et cela se fait d'une façon tout à fait naturelle. C'est la direction dans laquelle notre pratique nous pousse inévitablement. Comme Isan, nous répondons alors plus spontanément et sans réserve aux demandes de la communauté. Nous reculons moins afin de préserver notre propre confort. Notre pratique gagne en authenticité et en humilité. Nous sommes prêts à servir. Nous tenions autrefois au centre une cérémonie du jour de l'an. Cela se faisait le dernier jour de l'année et sur le coup de minuit, l'on entrait dans la nouvelle année en chantant les quatre vœux. Chaque année, M. Lowe lisait un seul texte, toujours le même, la voix du Bodhisattva de Shantideva. En voici quelques extraits. Je me réjouis quand ceux et celles qui souffrent trouvent le bonheur. Que je sois pour tous les êtres celui qui calme la douleur. Que je sois médecin et remède et celui qui soigne jusqu'à la guérison complète tous ceux qui souffrent en ce monde. Faisant tomber en pluie mets et boissons, que je puisse éliminer la faim et la soif. Et dans les temps de pénurie et de famine, que je devienne moi-même nourriture et boisson. Pour tous ceux qui sont pauvres et démunis, que je sois un trésor aux ressources inépuisables, la source de tout ce dont ils ont besoin, à portée de main et toujours accessible. Mon propre corps et toutes mes possessions, mes mérites passés, présents et futurs, je les dédie en totalité, n'en retenant aucun pour le bienfait des êtres. Que je sois le protecteur des abandonnés, le guide de ceux qui cheminent, et pour ceux qui aspirent à l'autre rive, que je devienne une barque, un pont, un gué, une île à qui souhaite toucher terre, une lampe à qui cherche la lumière, un lit pour qui désire le repos, un serviteur pour qui vit dans le besoin. Et tant qu'ils ne seront pas libérés de la souffrance, que je sois une source de vie pour les êtres innombrables qui peuplent l'espace infini. Donc un jour, Yakujo voulut choisir un maître pour le monastère de Dai. Il invita le chef des moines et le reste de la communauté à démontrer leur compréhension. Celui qui excellerait irait fonder le monastère. Il prit une cruche, la posa sur le sol et demanda : si on ne l'appelle pas une cruche, qu'est-ce que c'est ? Le chef des moines dit, on ne peut pas l'appeler un sabot. Yakujo se tourna alors vers Isan.